Au lendemain de la Toussaint, ce 2 novembre, nous commémorons tous les fidèles défunts. Et pour en parler, nous sommes avec l'abbé Philippe Baïtia. Bonjour.
Bonjour.
Alors hier, c'était la Toussaint. Nous avons célébré la communion des saints.
Oui, nous avons célébré une partie de la communion des saints. Je vais par là notre communion avec les amis de Dieu qui sont dans sa gloire, avec les saints du ciel. Et donc ce que les anciens théologiens appelaient l'Église triomphante. Et donc, aujourd'hui, en ce 2 novembre, c'est une autre partie, si j'ose dire, de la communion des saints, c'est-à-dire avec les défunts qui ont passé le voile de la mort et qui se purifient avant que d'accéder à la gloire de Dieu. Ce que les anciens théologiens appelaient l'Église souffrante.
Depuis quand fête-t-on les défunts le 2 novembre?
En fait, les défunts le 2 novembre, depuis le Xe siècle, c'est un abbé de Cluny qui, réfléchissant, bon, il s'est dit que voilà, le 1er novembre, on célébrait tous les saints du ciel, et que le lendemain, dans ces monastères, eh bien, on allait prier pour tous les défunts de la terre, et si mes souvenirs sont bons, aussi de toutes les époques. Donc, il a institué pour les monastères clunisiens de commémoration des fidèles défunts, qui ensuite a été reprise par l'Église.
Dans le credo, tous les dimanches, on dit « Je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle » ou « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». C'est l'espérance en notre propre résurrection à la suite du Christ.
Effectivement, c'est notre espérance en la résurrection à la suite du Christ, en union avec le Christ. Bon, ce que nous diraient par exemple les textes de la fête de l'Ascension, mais voilà, cette résurrection, elle est pour la fin des temps. Ceci étant, ben voilà, les défunts, quand ils passent le voile de la mort, c'est toujours des vivants. Des vivants, bon, bien sûr, on n'a plus accès à eux comme quand ils étaient de ce monde, où on les voyait, on les entendait, on avait de l'affection, de l'amitié pour eux, tout cela. Bon. Et donc, ben voilà, il faut accéder au royaume de Dieu. Et vous savez que dans l'évangile, il faut y accéder avec le vêtement de noces, et il faut que le vêtement de noces soit quand même
Limpio, blanc.
limpio, voilà, sans tache. Et donc, bon, il y a ce que l'Église appelle le purgatoire. Bon, c'est un mot, bon, qui est devenu un mot technique.
Et cette notion de purgatoire, elle apparaît quand, à quel moment?
Ben, elle apparaît déjà dès le temps des apôtres, puisque dès le temps des apôtres, on le voit chez saint Paul, dans les lettres saint Paul, on prie pour les défunts. Depuis le début de l'Église, on prie pour les défunts. Donc, on considère qu'ils ont besoin de notre prière. Alors bien sûr, le concept de purgatoire, de peine purgatoire, de peine qui purifie, de purgatorium, de quelque chose qui purifie, parfois considéré comme un lieu, bon, apparaît bien sûr au Moyen Âge. Mais la réalité est déjà présente dès le Nouveau Testament, voire même dans l'Ancien, hein, dans le livre.
Vous dites qu'on considère comme un lieu, en parlant du purgatoire, donc c'est pas forcément un lieu.
Non, le purgatoire, c'est un état, un processus. Il y a des processus industriels qui transforment, je sais pas moi, une matière première en autre chose. Alors bon, la comparaison est très, très vulgaire, mais voilà, c'est un processus. Pourquoi? Ben, parce que voilà, quand il y a peu de chrétiens qui vivent selon la grâce de leur baptême, il y a peu de gens qui sont réellement occupés de Dieu et qui sont distraits par un tas de choses dans la vie. Ce que Blaise Pascal, le philosophe, appelait le divertissement.
Même les saints sont pécheurs.
Les saints, oui, à part la Vierge Marie, le Christ, bien sûr, ben, les saints sont pécheurs.
Même les saints sont passés au purgatoire.
Ben, je suis pas le Seigneur. Tout dépend du degré de conversion qui les a saisis à leur mort. Mais il est bien possible que certains d'entre eux bon, aient reçu un dernier petit coup de brosse avant d'entrer cité du ciel. Bah, également, il y a ceux qui ont multiplié les péchés, notamment les injustices. Bah, ils ne peuvent pas accéder au royaume de Dieu sans avoir fait pénitence. Et puis, notre amour de Dieu et du prochain est souvent mêlé d'un amour de soi excessif. Donc, quand on meurt, ben, notre conversion n'est pas totale. Et pour certaines personnes, il y a quand même un besoin réel de conversion. D'où la nécessité de ce processus spirituel que l'on appelle, faute de notre mot, purgatoire.
Qu'est-ce qui se passe après le purgatoire ?
Alors, d'abord, il faut parler de ce processus de purification. Bon, qui est dans le fond une guérison intérieure. Le curé d'Ars disait que le purgatoire, c'était l'infirmerie du bon Dieu. Parce que, ben voilà, en nous, il y a tout ça. Il y a des racines de péché qui sont restées malgré nous. Donc voilà, Dieu nous guérit. Donc, vous avez une mystique, Sainte Catherine de Gênes, qui a écrit un traité sur le purgatoire qu'on trouve sur Internet. Et ben voilà, en même temps, il y a une souffrance, parce que dans la lumière de Dieu, on voit notre péché, on réalise un peu où on en est, et en même temps une joie, puisqu'on est en train d'être purifié, et qu'on va accéder donc à la joie de Dieu, et puis déjà, on est déjà, d'une certaine manière, dans sa communion. Et donc, dans le fond, purgatoire, c'est Dieu qui revêt le Fils prodigue du vêtement de noces. Après le purgatoire, après, bon, nous parlons avec le temps, avant, après. Bon, voilà, ce processus, si j'ose dire, étant réalisé, ben, voilà, bien, on accède à la vie éternelle, à la vision de Dieu, c'est-à-dire une communion profonde et intime avec Dieu, et à la communion des saints. Parfaite.
On peut aller en enfer aussi.
On peut aussi, effectivement, aller en enfer. Voilà, l'enfer, c'est l'envers de notre liberté. Voilà. Dieu nous a créés libres. Et il peut y avoir un aspect dramatique de notre liberté qui est de le refuser jusqu'au bout.
Comme vous l'avez dit, donc, depuis le début, l'Église prie pour les défunts. À chaque messe, on mentionne des défunts au moment de la prière eucharistique, ce qui veut dire qu'on prie pour tous les défunts à chaque messe. Pourquoi t'on... D'une certaine manière, on privatise-t-on la messe en demandant une intention pour un tel ou pour une telle ? Est-ce que ce n'est pas une manière de privatiser la messe, finalement ?
On ne la privatise pas, puisqu'on continue à prier pour tous les défunts. Mais, voilà, on va prier plus spécialement pour un tel ou une telle. On n'achète pas la messe. Mais, bien sûr, l'offrande de messe que l'on donne, mais bien sûr aussi pour la vie du prêtre. Voilà. Et c'est aussi une manière de partager.
Ce 2 novembre, donc, c'est la journée de prière pour tous les défunts. Il y a dans le rituel un certain nombre de messes pour de formulaires, j'allais dire plutôt, pour cette messe des défunts.
Alors effectivement, quand on ouvre le missel romain, donc, on trouve 3 formulaires de messe. Et vous avez une rubrique qui nous dit que le prêtre peut célébrer, un peu comme le jour de Noël, 3 messes pour les défunts. Alors, c'est quelque chose de relativement récent, puisque cette disposition date de 1915. C'est le pape Benoît XV qui l'a instauré, parce que Benoît XV avait été, le cardinal de la Chiesa, le futur Benoît XV avait travaillé, je crois, l'annonciature apostolique d'Espagne, où il y avait cette tradition. Donc, Benoît XV, en 1915, demande cela pour plusieurs raisons. D'une part, à cause de l'effroyable boucherie de la guerre de 14 et de tous les morts qu'il y a. D'autre part, parce que le laïcisme a supprimé des fondations de messe. Donc on ne célèbre pas, et aussi parce que, dit-il, il y a des défunts pour lesquels on ne prie pas. Et très récemment, le pape François a demandé, a insisté, là, ces derniers jours, pour que, à cause de la crise du Covid, les prêtres, ceux de novembre, célèbrent ces trois messes.
Le 2 novembre, donc, nous prions pour tous les défunts et nous nous rappelons que tous nous sommes appelés à la résurrection.
Oui, nous nous le rappelons, mais pour ainsi dire, les fêtes qui vont davantage nous rappeler la résurrection, c'est bien sûr la résurrection de Jésus, qui manifeste en quelque sorte que nous ressusciterons avec lui, ou l'ascension, voilà, puisque la liturgie de l'Église dira que notre nature humaine est unie à la sienne dans le ciel, ou voire même encore bien, la fête de la veille, la fête de la Toussaint, où nous contemplons, en esprit et dans la prière, un peu la gloire des saints, même si elle n'est pas encore totale, en ce sens que tous ne sont pas ressuscités. Mais voilà, ces fêtes-là sont peut-être plus parlantes. Le 2 novembre nous le dit, bien sûr, dans les prières de la liturgie, mais ces fêtes sont plus glorieuses, et voilà. Ou la fête de l'Assomption de la Vierge aussi.
Un grand merci à vous, à PF Beta, pour donc tous ces éclairages sur ce que nous célébrons ce 2 novembre, donc la commémoration de tous les fidèles défunts. Merci à vous.
Au revoir.